Frères, que devons-nous faire? Telle est la question des habitants de Jérusalem à Saint-Pierre après l'appel qu'il leur avait annoncé. Qu'est-ce que le Seigneur veut pour moi? Je suis venu pour que les brebis aient la vie et qu'elles l'aient en abondance. Le Seigneur est venu, il a donné sa vie, non pas seulement pour que nous ayons la vie, mais pour que nous ayons la vie en abondance. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé, il pourra passer, il pourra entrer, il pourra sortir, il trouvera un pâturage. Jésus ne veut pas seulement que nous soyons sauvés, mais que nous parvenions au degré de sainteté et de gloire, et donc de bonheur, auquel il nous appelle, qu'il a choisi pour nous, pour chacun de nous, de toute éternité. Il ne s'agit pas seulement d'avoir son ticket d'entrée, Jésus veut que nous soyons encore aux premières loges. Et comme Pierre, pour les gens de Jérusalem, cet appel à la conversion et à la sainteté passe souvent par le ministère des prêtres, par ceux que Dieu a choisis pour bâtir son Église. Et Dieu le sait. Dieu sait qu'il a voulu cela de toute éternité, et il continue d'appeler. Ne croyez pas que Dieu ait moins d'amour pour nous et pour nos contemporains que les 3000 personnes de Jérusalem. Un jeune sur trois est appelé, nous dit saint François de Sales. Et Don Bosco est dans les mêmes chiffres. Non, les obstacles ne sont pas à regarder du côté de Dieu, mais des hommes. Chez les jeunes d'abord, chez les brebis elles-mêmes, mais aussi chez les pasteurs et chez les éducateurs. Les brebis sont parfois empêchées de réaliser leur vocation par des voleurs. On pourrait penser d'abord aux mauvais prêtres, parce que c'est le climat dans lequel nous vivons, les images qui sont véhiculées, pour la faute de certains, grave, mais de certains. Mais la brebis elle-même peut très bien voler sa vocation à Dieu. Oui, nous pouvons voler notre vocation à Dieu. Comment? En n'écoutant pas sa voix, et si on l'entend, en ne marchant pas à sa suite. Les brebis écoutent sa voix. Le premier obstacle à notre vocation, et aux vocations religieuses et sacerdotales, c'est la non-écoute des brebis. Nous connaissons le Seigneur, ou plutôt notre catéchèse sur le Seigneur. On peut avoir des idées sur le Seigneur, mais c'est autre chose de le connaître intimement, comme un ami. Cela exige de lui donner du temps. Cela exige une certaine disponibilité. C'est la prière. Mais aussi dans la prière, une attitude de disponibilité, d'offrande. Mon Père, je m'abandonne à toi. Nous avons développé cette capacité à faire taire Dieu par nos absences et notre bavardage. Il appelle toujours beaucoup, mais nous n'écoutons pas. Il nous faut entrer dans le silence. Non seulement le silence auditif, mais le silence visuel. L'amour déréglé des écrans et de tout ce qui nous passe sous les yeux est un grand obstacle pour écouter la voix de Dieu, à notre recueillement dans la prière. Il nous faut entrer dans le silence, dans la profondeur, là où Dieu nous parle, là où nous pouvons saisir ce qui est de lui et discerner ce qui ne vient pas de lui. La prière est d'abord la première disposition pour entendre son appel, la vocation qu'il a pour nous. Mais après que Dieu les ait appelés, après que les brebis aient entendu son appel, il faut encore que les brebis le suivent. Et on peut répondre non, non pas directement, mais en faisant autre chose, en faisant des plans, en ne laissant pas la main à Dieu. La vocation n'est pas une idée sur ce que nous devons faire, mais un assentiment à ce que Dieu veut faire avec nous, ce que Dieu veut que nous fassions. Nous voudrions parfois faire toutes les expériences, tel voyage, tel métier, telle formation, telles études. Et parfois, c'est très généreux, ça peut aller jusqu'à un service humanitaire. Mais est-ce cela que Dieu veut pour moi ? Nous pouvons aussi la voler, notre vocation, par trop de prudence, par esprit mondain, par volonté de carrière, par individualisme, par peur du qu'en dira-t-on ? Ah oui, si j'ai trop d'enfants, que va-t-on penser de moi ? Je serai catalogué. Ben oui. Je peux aussi la voler en me consacrant bien à Dieu, mais pas là où il veut. Je veux que les jeunes comprennent bien qu'on ne choisit pas son séminaire, sa communauté religieuse, dans un catalogue. C'est Dieu qui choisit. Et au final, on sera plus heureux, croyez-moi. Par ces deux refus, ne pas écouter et ne pas suivre Jésus là où il nous appelle, nous oublions deux choses. D'abord, la grandeur de notre vocation, celle à laquelle nous sommes appelés. Et je pense d'abord à celle du sacerdoce. Le prêtre, être un autre Christ. Lorsqu'il consacre l'Eucharistie sur l'autel, il ne dit pas « ceci est le corps du Christ, mais ceci est mon corps ». Lorsque nous sommes pardonnés de nos péchés, le prêtre nous dit « je te pardonne tous tes péchés ». Il peut donc dire aussi « je suis venu pour que tu aies la vie et que tu aies la vie en abondance ». Cela veut dire aussi qu'il doit dire comme Jésus « je donne ma vie pour mes brebis ». Seul Jésus sauve. Seul Jésus sauve. Si quelqu'un entre passant par moi, il sera sauvé. Aussi, il faut que Jésus soit rendu présent, en personne. Et c'est ça le sacerdoce. Il faut que Jésus soit rendu présent. C'est oublier aussi que nous ne pourrons pas être heureux en dehors de l'endroit où Dieu nous veut. La tristesse est le prix de l'égoïsme. Le jeune homme riche que Jésus appelait à tout quitter pour le suivre dans la vie religieuse refusa. Pourquoi ? Parce qu'il avait de grands biens. Et comment s'achève cet évangile ? Il s'en alla tout triste. Nous pouvons être malheureux et malheureux éternellement pour refuser notre vocation. Le chemin du Seigneur, c'est vrai, le chemin de la vocation est exigeant, parce qu'il est le même que celui de Jésus. Il exige à renoncer à soi-même, mais encore pour un bien plus grand, un bien et un bonheur plus grand. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir, nous dit Jésus. Et l'inertie et la sécurité sont des armes terribles aujourd'hui pour voler les vocations. Nous ne sommes pas faits pour rester claquemurés dans la bergerie de la terre. Nous sommes faits pour sortir vers les verts pâturages. Il y a aussi les obstacles chez les prêtres, les pasteurs et les éducateurs. Le Seigneur sait très bien nous toucher, nous parler. Il peut le faire directement, comme saint Paul sur le chemin de Damas. Et cela se passe à la messe, lorsqu'on entend tel verset de l'Évangile qui résonne dans notre cœur, dans la prière. Mais ce n'est pas forcément fréquent. Il peut le faire aussi indirectement. Dans l'Épître aux Hébreux, il est dit que le sacerdoce est un honneur que personne ne doit s'attribuer soi-même, mais qu'on y est appelé par Dieu seul, comme Aaron. Seulement, quand on regarde la vie d'Aaron, on voit que ce n'est pas Dieu qui l'a appelé directement. C'est Moïse, en fait. Le Seigneur passe par des instruments. Notre appel passe par d'autres. Particulièrement par les prêtres. Ils ont une grâce spéciale pour cela. Et ce ne dépend pas de leur qualité. Et ça, je le vois bien tous les jours. C'est une grâce d'État. Et c'est aussi un devoir pour les prêtres. Il faut aussi rappeler ce devoir-là aux prêtres, bien souvent. C'est un devoir, car comment puis-je rappeler aux couples L'ordre que leur donne le Seigneur, soyez féconds, multipliez-vous, emplissez la terre, si je ne vis pas cette même fécondité dans mon ministère. Et cela est fécond parce que ce n'est pas le prêtre en tant que lui-même qui parle, mais en tant que Jésus. C'est le Christ qui parle en lui. Celui qui entre par la porte, c'est-à-dire par Jésus, c'est le pasteur, le berger des brebis. Et cela vaut aussi pour les éducateurs. Nous pensons souvent qu'il ne faut pas imposer. Nous pensons qu'il ne faut pas dire, il faut le laisser libre. Bien sûr qu'il ne faut pas imposer, mais depuis quand proposer la vérité est cause d'incapacité à être libre? Depuis quand plus de connaissance de Dieu et de la vocation à laquelle il nous appelle peut être nous mettre en prison? Non. Appeler n'est pas entraver la liberté. Dire la vérité, c'est libérer. La vérité vous rendra libre, dit Jésus. La vérité vous rendra libre. Le bon pasteur n'a pas besoin des prêtres, des éducateurs, des familles pour appeler. Mais il veut en avoir besoin. Il veut notre collaboration pour appeler et pour permettre que ces vocations soient accueillies, soient mûries dans le cœur des jeunes. Comment faire? D'abord, prendre aux jeunes, aux enfants, à avoir cette relation personnelle avec Jésus. Moi, je suis la porte. Si quelqu'un entre en passant par moi, il sera sauvé. Il pourra entrer, il pourra sortir et trouver un pâturage. Cette relation se noue d'abord dans la prière. Combien elle est précieuse pour les vocations, pour toutes les vocations. Cette prière dite quotidiennement en famille. Pour appeler ensuite, la parole est bonne, mais la parole vécue, la parole en acte, est souvent plus percutante. Et je vais à l'encontre de tout ce que nous entendons dans les médias. Les jeunes ont besoin de voir les prêtres et les religieux. Un prêtre, ancien curé d'une paroisse de l'agglomération de Bourg-en-Bresse, disait « J'ai été curé 5 ans ». Et en 5 ans, j'ai été invité 5 fois dans les familles. Si nous éloignons le prêtre, si nous éloignons les religieux de notre vie de famille, les vocations continueront à s'éteindre. Le prêtre n'est pas fait pour rester cantonné dans la chapelle ou dans les locaux de la paroisse. Il est fait pour porter la vie là où elle doit être donnée. Ça peut d'abord être l'occasion pour bénir la maison aussi. Et ce contact personnel avec le prêtre dans la vie de famille est important. Combien de couples ont divorcé parce que le prêtre n'était pas connu intimement? Je ne dis pas que c'est arrivé, certains couples ne connaissaient pas les prêtres et ont divorcé, mais combien ont évité cette tragédie? Parce qu'il y avait le prêtre à qui on pouvait se confier et qui pouvait nous donner les bons conseils. Si les brebis écoutent la voix du bon pasteur, c'est parce qu'il n'est pas loin d'elle. C'est parce qu'elles ne sont pas loin de lui. Le curé d'Ars passait souvent voir ses paroissiens. Les familles l'invitaient, mais il pouvait passer à l'improviste. Et c'est souvent un bon signe, ça. Un jeune homme que Dieu appelait à être religieux et prêtre avait entendu très tôt l'appel au sacerdoce, avant même l'âge de raison. Mais il a fallu plus de 20 ans pour qu'ils comprennent que Dieu l'appelait aussi à la vie religieuse. Pourquoi? Parce que dans sa famille, les prêtres étaient toujours les bienvenus. C'était rare que chaque mois, il n'y avait pas un prêtre qui passait, qui était invité ou qui passait. Par contre, pas de religieux. Et ce n'est qu'en arrivant dans un foyer tenu par des religieux, en tant que foyer d'étudiant, qu'il a compris ce qu'était la vie religieuse et qu'il a compris que Dieu l'appelait à cela. Nous avons besoin de cette présence auprès de nous. Dieu passe par ses instruments pour appeler. Mais la vraie clé de notre prière et de notre collaboration pour les vocations, réside surtout dans le désir que nous en avons. À quoi sommes-nous prêts à renoncer pour que se lèvent de nouveaux prêtres, de nouveaux religieux, religieuses? Le désir du sacerdoce, le désir des vocations sacerdotales, des vocations religieuses, est une grâce à demander. Un bon repère pour savoir où nous en sommes, c'est « Suis-je prêt à ce que le Seigneur prenne mes enfants ?» Ou plutôt, « Reprenne les enfants qu'il m'a confiés, ses enfants. » Et donc, c'est le désir des vocations chez soi qu'il faut demander. Oui, je dis bien chez soi, parce que les vocations, les prêtres, on en veut bien, on prie pour ça même. Mais c'est toujours mieux quand ça arrive chez les autres. Voilà. Être appelé à servir le Seigneur pour que les brebis aient la vie, et la vie en abondance, est une grâce immense. Que le Seigneur daigne choisir parmi mes enfants ses serviteurs et ses servantes est une grâce immense. C'est le plus beau fruit qu'un couple chrétien puisse porter, disait Jean-Paul II. Pour son mariage, Jeanne Beretta Mollard s'était faite faire, par un couturier de renom, une robe de mariée dans un grand tissu, tissu de grand prix, une robe longue, à manches longues. Pourquoi ? Pour paraître chic et belle, admirée de tous ? Non. Parce qu'elle avait l'espoir qu'un jour le Seigneur appellerait un de ses enfants et que dans cette robe pourrait être cousue une chasuble.